Curieuse parabole qui met en avant un serviteur malhonnête. Voilà que Jésus nous décrit dans le détail ses fraudes et ses malversations, faux et usage de faux. Alors qu'on serait en droit d'attendre une condamnation sans appel de la supercherie, voilà que Jésus conclut sa petite histoire par cette remarque déroutante. Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. L'Évangile ferait-il l'éloge de la fraude ? Non, bien entendu. Et de fait, le maître ne fait pas l'éloge de la malhonnêteté de son intendant. Ce qu'il loue, c'est son habileté. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Cet intendant malhonnête a su agir de manière avisée pour, comme on dit, assurer ses arrières, pour se préparer une nouvelle vie après son licenciement. Alors, que doit faire un disciple du Christ pour assurer ses arrières et préparer son avenir éternel? Eh bien, il doit lui aussi agir de manière avisée. Tout mettre en œuvre pour vivre en fils de lumière, en particulier dans son rapport à l'argent. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Servez-vous de l'argent pour faire du bien. Il est tellement facile de se laisser tromper par l'argent trompeur, de se laisser asservir par l'argent au lieu de se servir de lui. Et il est bon que l'Évangile nous le rappelle de temps en temps. L'argent n'est qu'un moyen, il n'est pas une fin. Vous ne pouvez à la fois servir Dieu et l'argent. Comme le rappelait le prophète Amos dans la première lecture, le cœur de l'homme peut se laisser détourner de Dieu par l'appât du gain. Combien de fois, hélas, l'argent ne sert qu'à faire le mal, qu'à dominer, qu'à commettre des injustices. Mais vous pouvez aussi, nous dit Jésus, tromper l'argent trompeur. Vous pouvez vous servir de l'argent pour servir Dieu. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur afin que ceci vous accueille dans les demeures éternelles. Chers amis, une chose est certaine. Un jour viendra où la parabole du maître de la parabole nous sera personnellement adressée. Rends-moi des comptes de ta gestion. Nous ne sommes que des intendants. Nos biens matériels nous sont confiés par Dieu pour nous permettre d'être des instruments de sa bonté et d'agir en son nom. Est-ce que nous pensons à remercier chaque jour Dieu dans notre prière pour tout ce que nous recevons de sa générosité, tout ce qu'il nous confie comme à des intendants? C'est parce que Dieu nous fait confiance qu'il nous confie des biens afin de pouvoir agir en son nom. Mesurons-nous l'honneur que Dieu nous fait d'être ses intendants. Sommes-nous toujours de bons intendants de tout ce que nous croyons posséder, mais qui nous est seulement confié? Ce que nous rappelle l'Évangile dépasse une simple invitation à plus de générosité, plus de solidarité dans la gestion des biens matériels. Il s'agit encore une fois de notre salut, c'est-à-dire de notre relation à Dieu, de ce qui nous permet de l'aimer, de le servir dans la gratitude. Dire à Dieu notre Père, comme nous le faisons quotidiennement, c'est commencer par se reconnaître débiteur envers lui de ce que nous avons et de ce que nous sommes, à commencer par notre vie. La vie est un don de Dieu, un don qui nous est confié. Nous n'en sommes pas les propriétaires, nous n'en sommes que des gérants. Nous ne pouvons pas en disposer comme bon nous semble, sans nous en référer à celui qui en est l'auteur, et cela de sa conception jusqu'à son terme naturel. La vie ne nous appartient pas. Ce que nos contemporains appellent l'environnement et que nous croyants appelons la création, elle aussi nous est confiée. Le pape Léon XIV rappelait, il y a quelques jours pour l'ouverture du mois de la création, la place spéciale réservée dans l'acte de la création à l'être humain. Je le cite, « la créature la plus belle parce qu'elle est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. » Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Si l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme n'est pas l'animal nuisible de la création, comme voudrait nous le faire croire une forme radicale et idéologique de l'écologie. Non, l'homme n'est pas l'animal nuisible de la création. Mais, comme dit le pape, a ce privilège d'être créé à l'image de Dieu est associé une grande responsabilité. Et vous remarquerez d'ailleurs que ceux qui aujourd'hui se réclament des défenseurs de la nature au nom d'une idéologie écologique sont les premiers à voter des lois contre la vie, à soutenir une culture de mort, de sa conception jusqu'à son terme naturel. L'être humain est le gérant, c'est l'intendant de la création, non le propriétaire. Et les paroles de l'évangile de ce jour doivent de la même manière résonner en nous. Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Sommes-nous dans notre quotidien, dans notre façon de vivre, des gérants qui gaspillent ? Cherchons-nous à être de bons intendants de cette création qui nous est confiée pour notre bien et celui de l'humanité entière ? Et le Saint-Père nous disait, seul un regard contemplatif peut changer notre relation avec les choses créées et nous faire sortir de la crise écologique qui a comme cause la rupture des relations avec Dieu en raison du péché. Oui, vous l'avez compris, et c'est cela l'écologie chrétienne. Comprendre que la crise écologique trouve son origine dans une crise spirituelle. Je cite à nouveau le pape. Seul un regard contemplatif, c'est-à-dire une conversion spirituelle, nous permettra de résoudre cette crise. Si notre vie nous est confiée, si la création nous est confiée, il y a pour nous un bien inestimable qui nous est confié depuis notre baptême et pour lequel nous devrons également rendre compte devant Dieu. C'est le don de la foi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. Quelle est cette vérité dont nous parle saint Paul dans sa lettre à Timothée, dans la deuxième lecture? C'est celle que nous avons reçue dans la foi de l'Église et à laquelle nous communions à chaque messe. Je cite saint Paul, « Le Christ Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes ». Eh bien, cette vérité, le Christ, cette vérité est-elle vraiment au cœur de ma vie? Oriente-t-elle mes choix, mes engagements, mes renoncements? Suis-je capable de témoigner aujourd'hui de ma foi avec courage et avec joie? En ces journées européennes du patrimoine, la question posée dans la parabole apparaît plus que jamais d'actualité. Rends-moi des comptes de ta gestion. Il ne s'agit pas seulement d'un patrimoine matériel. Il ne s'agit pas seulement d'un patrimoine de pierre, il s'agit d'un patrimoine spirituel qui a forgé l'identité même de l'Europe. Ce patrimoine spirituel, c'est l'héritage de la foi chrétienne que nous avons à transmettre. Là aussi, Dieu nous demandera des comptes sur notre gestion. Comment avons-nous transmis l'héritage que nous avons reçu ? Permettez-moi de terminer en rappelant l'appel prophétique du saint pape Jean-Paul II qu'on a appelé l'appel de Compostelle en 1982. Ô vieille Europe, je te lance un cri plein d'amour. Retrouve-toi toi-même, sois toi-même, découvre tes origines, renouvelle la vigueur de tes racines, reconstruis ton unité spirituelle. Demandons par l'intercession de la Vierge Marie que notre pays, que l'Europe, redécouvre ses origines, renouvelle la vigueur de ses racines et reconstruise son unité spirituelle. Amen.